L'Aïn Hara. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la portée de l'Aïn Hara? Et surtout, où est la justice de l'Aïn Hara? Parce que comment se fait-il que quelqu'un, tout va bien chez lui, quelqu'un passe, regarde, fait Aïn Hara, oh, le bel enfant. Et après, oh, la belle voiture, oh, le beau tableau, d'accord? Et hop, tout d'un coup, l'enfant, il tombe par terre, il s'ouvre les lèvres, le tableau s'écrase par terre, la voiture, on le retrouve en... Qu'est-ce qui s'est passé, le pauvre? C'est pas à cause des yeux du passant ou de la voisine que... Où est la justice? Bon, la réponse est très simple. Quand nous citons les 13 attributs de miséricorde de Dieu, il y a un des attributs de miséricorde qui s'appelle Erech Apaim. Erech Apaim, ça veut dire qui Erech rallonge, Apaim, Af, c'est la colère. Il est patient. La colère, quelqu'un m'énerve, tout de suite je suis énervé, je veux tout de suite lui rendre ce qu'il m'a fait. Lui, il a le temps. Il attend, et... Pourquoi il attend? Pour que la personne fasse choua. Normalement, d'après la justice, quelqu'un a fait un péché, quelqu'un a fait une erreur, il doit écoper tout de suite. Dieu, il a une mida, un attribut, qui dit, non, je lui laisse le temps. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y perd quelque part. Pourquoi? Parce que si effectivement, chaque fois qu'on faisait une bêtise, alors directement, on avait une tuile qui nous tombait dessus, eh ben, je te garantis que personne, peu de gens feraient des bêtises, parce qu'ils verraient la réaction directe. Donc quelque part, c'est pas bien. Mais c'est oui très bien. Pourquoi? Parce que ça nous laisse l'occasion de faire tchouva. Viendra le jour, avant Yom Kippour, à certains tchouva, les jours de pénitence où on fait tchouva, et Dieu efface la faute avant que la faute vienne et exige son dû. Si c'est pas Yom Kippour, lorsque ça va pas, quelqu'un a un problème dans la vie, il se connaît qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi il fait tchouva, ou à la fin de la vie, avant la mort, les gens se réveillent, ils font tchouva. En tout cas, on lui a laissé beaucoup de temps pour, avant de lui faire payer, j'aime pas ce mot, entre guillemets, réparer sa faute, ou dans la mazé, dans ce monde-ci, ou là-bas, dans le monde à venir. En parenthèse, mieux vaut toujours payer ici que là-bas. Parce qu'ici, la souffrance, elle est passagère, et elle est mêlée à beaucoup de miséricorde. Alors que dans le là-bas, c'est le dîn complet, c'est la justice totale de Dieu. Donc nous, on a avantage à ce que Dieu, il rallonge, soit Erapaim, qu'il nous donne du crédit pour faire tchouva. Dans le ciel, il y a, c'est marqué que c'est comme la cour d'une justice terrestre, comme ça la justice du ciel. On va dire peut-être le contraire, la justice terrestre est comme le modèle de la justice céleste. Qu'il y a dans une cour, tu as le juge, mais tu as la partie... Les avocats de la défense, les avocats de l'accusation. Dieu a créé le bien et le mal. Tu as une partie des anges qui sont les anges protecteurs, on va dire, d'Israël, de la personne. Et tu as les péchés eux-mêmes. Les péchés, c'est quoi? C'est une réalité. Quand quelqu'un y fait ce qu'on appelle un péché, il prend une énergie qu'il a, une énergie divine, la vie, qu'il investit dans une chose qui est négative, qui ne fait pas du bien dans le monde, et crée une réalité négative. Il y a maintenant une réalité négative qui vit grâce à Dieu. On dit que Dieu est un melech alouv, un roi honteux. Pourquoi honteux? Parce qu'il, quelque part, nourrit, il fait vivre ses ennemis. Il se laisse marcher dessus en quelque sorte. Quand tu vas maintenant, tu prends l'énergie de Dieu, tu prends ta vie, et tu fais vivre maintenant des êtres maléfiques, des réalités spirituelles de mal, qui sont contre Dieu, quelque part, comme si Dieu, maintenant, il joue pour le camp ennemi. Comment Dieu donne la vie à toutes les ordures qu'il y a eu durant l'histoire? C'est Dieu qui leur donne la vie. On dit « Melech Alouf ». Bon, ça, c'est aussi un des attributs de Dieu, que Dieu, il donne. Il donne, il est tellement « Bal Rachamim », tellement miséricordieux, tellement bienveillant, qu'il donne la vie. Donc quelque part, il donne la vie aussi, par notre biais, lorsque nous faisons un péché, c'est une déviation. Il y a le mot « avon ». Avon vient du mot aivut, qui signifie tordu. Tu prends maintenant le flux qui aurait dû aller vers une chose bien et la faire vivre, le flux de Dieu, tu le fais dévier vers une chose qui n'existe pas, le mensonge, ce qui n'existe pas, et tu lui donnes réalité. Tu donnes réalité au mensonge, tu donnes réalité à tous les grands faiseurs de mensonges qu'il y a dans l'histoire, qui racontent tous les ismes, tous les communismes, socialismes, nazismes, d'accord, toutes ces bêtises-là, qui ont fait beaucoup de monde, beaucoup de mal durant l'histoire, au nom du mensonge. Tu donnes réalité au mensonge. Cette réalité maintenant, elle existe, c'est une réalité qui est spirituelle, et quelque part, au niveau de la justice divine, elle dit, moi j'ai été créé par X, on va l'appeler Moshe, d'accord, c'est Moshe qui m'a créé, maintenant je suis une création de mal, c'est normal que celui qui m'a créé, il doit écoper. Cette réalité de mal peut disparaître de deux façons. Ou bien elle disparaît en se transformant en une chose négative, qui va toucher Moshe, une tuile, ou bien elle disparaît par la tchouva. Mais réalité, elle est là. Cette réalité, elle crie. Tout ça, bien sûr, est très imagé. Il n'y a pas ni des diablotins, ni des démons, d'accord. Réalité, de mal, d'accord. Tu comprends, tu peux sentir chez quelqu'un qui respire le bien ou qui il respire le mal. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens une chose qui est impalpable. Il y a une réalité spirituelle de mal qui existe. D'accord? Le mal existe. Ce mal maintenant, alors c'est marqué, il crie de façon imagée, ça veut dire, il exige que celui qui a créé ce mal, il écope. Attends, Dieu, il a l'attribut de Er Hapaim, de miséricorde, qui dit, attends, on lui laisse le temps. Alors quelque part, c'est ce que dit le côté de la défense. L'avocat de la défense dit, ok, mais laisse le temps, peut-être il fera tchouva. Alors l'accusation se tait. Il y a un débat sans cesse entre l'accusation et la défense. Quand nous allons le jour de jugement de Dieu à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On sonne du shofar, on dit à Dieu, Dieu, déplace-toi de ton siège de rigueur et va sur ton siège de miséricorde. C'est-à-dire, n'écoute pas maintenant la voix de l'accusation qui a raison. L'accusation, elle dit, il a fait quelque chose de mauvais, il doit payer, il doit écoper, c'est normal. La défense aussi, elle a raison. Elle dit, oui, ok, mais laisse le temps, peut-être il va faire tchouva. Les deux ont raison. Alors, par les prières de l'âme Israël, par la miséricorde que Dieu a lui-même, par les mitzvot que nous faisons, c'est tous les avocats de la défense qui sont là pour dire, on laisse le temps qu'il fasse tchouva. Quelqu'un vient et dit, Moshe, quelle belle maison il a. Il dit pas Bliainara, il dit quelle belle maison il a. La voix va dans le ciel. Là, les avocats d'accusation disent, quoi, une belle maison? Une belle maison? Lui, c'est tordure, ce salaud, ça fait déjà 10 ans qu'il doit payer pour les bêtises qu'il a fait, et on l'attend. En plus maintenant, il a une belle maison, et oh Dieu, les avocats de la défense. Il a une belle maison, comme on ressort son dossier, on ouvre, comment il a une belle maison? Il mérite pas une belle maison. L'avocat, la défense dit, c'est vrai qu'il a. On donne de la force maintenant au côté négatif. La voix, il faut comprendre que la voix, les yeux que nous avons et la voix que nous avons, ils ont une portée. Les plus grandes choses ont fait avec la voix. Tu peux enseigner la Torah, tu peux parler la Torah. Mentir. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que la voix, elle a un impact. La Shonara. C'est marqué Keneged Kulam. Le péché de la Shonara, il équivaut à toute la Borotra réunie. Là, qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Je parlais de lui, personne n'a entendu. La voix, ça a un impact. Beaucoup plus que la création physique. Une fois, on en a parlé ici, on a dit que il y a une partie qui est corporelle, on appelle ça le nefesh. Qui crée? Comment le nefesh, il crée? Avec l'organe sexuel. C'est ce qui crée la vie. Le ruach, c'est la partie qui est plus haute chez l'être, la partie plus haute, spirituelle, elle crée aussi. Comment? Avec la bouche. Les deux créent. Et il est très intéressant de voir que le mot Mila, en hébreu, qui est le nom de l'organe sexuel masculin, la Mila, Brit Mila, on fait une alliance au niveau de la Mila, la circoncision, d'accord? La Mila, c'est l'organe sexuel masculin. Vers numérique, ça vaut 85. Et P, la bouche, vaut aussi 85. Parce que les deux créent. Et c'est marqué, par exemple, que lorsque quelqu'un Quelqu'un, il enseigne la Torah, il parle à son chavruta, à son binôme, son partenaire d'études. Il parle maintenant, il enseigne la Torah. Et l'autre, il est en train de rêver. C'est marqué qu'il fait quelque part comme Zera Levatala. C'est comme si maintenant, il fait de la semence en vin. Parce qu'il crée la Torah, c'est une source de vie, qui est maintenant en train de planter, de donner des sources de vie, et ça va dans rien du tout. C'est comme Zera Levatala, comme ça dit Rabbi Noari. Au niveau du rouar. Rouar, c'est l'esprit, c'est au niveau beaucoup plus haut. On a un corps avec la partie impulsive, la partie des instincts que nous ne palpons pas. Le corps, c'est le steak, mais une chose qui fait vivre le steak. Ça s'appelle le nefesh. Le rouar, c'est la partie qui est plus haute de l'être humain, qui fait qu'il peut parler. Maintenant, de même que le nefesh, il crée au niveau sexuel, l'homme, il va créer aussi au niveau de sa parole. Il y a une correspondance entre les deux. Donc, tout cela pour dire que la parole, elle a un impact extraordinaire, beaucoup plus que l'acte. L'acte, tu peux arriver à ce que tu... Avec la parole, tu peux tuer quelqu'un en Amérique. Avec ta parole.
Mila, ça veut pas dire mot aussi.
Mot aussi, très bien. Mila signifie mot. Ce sont des créatures. Tu crées. Tu crées, ou en physique, un être humain, ou tu crées des réalités métaphysiques avec la parole. C'est une réalité. Cette réalité métaphysique, elle a un impact. Quand quelqu'un dit « quelle belle maison il a Moshé », c'est un impact. C'est un impact, c'est-à-dire qu'en haut dans le ciel, ça réveille le côté négatif de la question qui dit « Eh oh, Moshé, ça fait déjà 10 ans qu'on l'attend pour les bêtises qu'il a fait quand il était jeune. On l'a laissé crédit. » Tout qu'on rappelle « Ah, Moshé, allez, ramène maintenant. » Et boum, tach. Alors, est-ce que c'est juste ou pas? C'est juste, parce que le crédit était injuste. Normalement, il aurait dû payer tout de suite. On lui a fait un crédit. Maintenant, quand on va, et même sans la parole, avec le regard, c'est la force du regard. Le regard, tu as un regard jaloux et envieux.
Ça réveille l'accusation.
Ça réveille l'accusation, ça a un impact.
Mais l'accusation, elle savait déjà. Le fait qu'on parle, alors ça déclenche.
Absolument. Bien que l'accusation, elle sait très bien, mais quand tu vas et que tu regardes ou que tu dis, ça fait ressortir le dossier. C'est comme si le type, il est calmé. Maintenant, je sais pas, toi, il y a quelqu'un que tu aimes pas. Tu lui en veux. Bon, mais tu vis ta vie. Qu'on te dit, ce type-là à qui tu en veux, il a gagné à la loterie. Ça t'énerve, d'accord? Idem là-haut, exactement la même chose là-haut. Là-haut, les forces accusatrices qui veulent notre mort.
Comment on répare ça?
Parce
qu'on est en train de causer du tort à quelqu'un, on est conscient, comment on répare?
C'est terrible, c'est terrible.
On a eu la pensée.
La Gemara dit, Rava a dit que dans le cimetière, il y a 1 sur 1000 qui n'est pas mort de Aïnara. C'est terrible. Parce que c'est pas une chose qui est, si c'est une chose qui est injuste, alors Dieu il met son droit de veto, mais c'est pas injuste, c'est juste. Parce que c'est en fait que faire retomber plus vite les péchés, les conséquences des péchés qu'on a fait sur nous. C'est pas quand on te fait tomber un truc que tu méritais pas. Tu le méritais, parce qu'il y a eu un crédit, et ce crédit était annulé. Maintenant, comment réparer? Celui qui fait, il doit s'habituer à avoir un regard bienveillant sur l'autre. Pas regarder, pas parler. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Si quelqu'un envoie, alors, qu'est-ce qu'on doit faire nous pour nous protéger de Aïnara? D'abord, pas rentrer en état de panique.
Pas rentrer dans des...
État de panique. Plus on est paniqué par le Aïnara, plus le Aïnara, il a une emprise sur nous. Celui qui aura une confiance aveugle en Dieu, quelque part, c'est un mérite très grand. Tu comprends? Les anges accusateurs viennent dire, oh, il mérite. Les anges de la défense veulent dire, oui, mais regarde quelle foi il a en Dieu. Bien que maintenant, il devrait trembler à cause du Aïnara qu'on lui a fait, la belle maison de Moshe, lui dit, bon, Bahou Hachem, rien ne m'arrivera. Bon,
c'est mieux que 5.
Alors, il faut tout utiliser. C'est bien la confiance en Dieu, mais c'est pas passe-partout dans tous les cas. Il y a des gens qui sont plus sensibles au Aïnara, c'est certain. Maintenant, il y a un truc à faire. C'est bien, c'est un truc, hein, encore une fois, il n'y a rien qui est 100%. Ce sont des trucs. Les trucs, c'est-à-dire que ça, c'est comme... je sais pas, moi, maintenant, il y a une grippe qui se balade dans le monde, ok, tu fais une piqûre de renforcement, tu fais une piqûre de vitamine. C'est pas tous les coups que tu n'as pas la grippe, ça renforce. Il n'y a pas de combine qui est passe-partout, un blindé imperméable. C'est bien de prendre les pouces comme ça, tac, tac, et de dire, Anna, mais zara zara de Yosef katina de l'oshana de doshalta ben abish à son araméen. Vous dites en français. Moi, je viens de la descendance de Joseph, sur qui le Aïnara, l'œil mauvais, n'a pas d'emprise. Yosef, vu qu'il protégeait ses yeux de façon extraordinaire, Yosef était un très très bel homme, et toutes les femmes d'Égypte le regardaient, et lui regardait pas. Vu qu'il a protégé ses yeux de façon tellement, tellement solide, alors lui, c'est dit dans sa bracha, Ben Porat Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleyin, que Yosef, il est Aleyin, il est au-dessus des yeux, au-dessus de l'emprise négative des yeux. Maintenant, c'est qui l'emprise négative des yeux? C'est Esav qui voit les lentilles, qui me dit, donne-moi de ce rouge, car je suis fatigué. Pourquoi il dit pas donne-moi des lentilles? Appelle chose par son nom. Esav fait attention au look. Esav, c'est le prototype de l'Occident qui fait attention au look. Ce qui est important, c'est le look, la partie superficielle. Le nom, c'est l'essentiel, la finalité, pourquoi tu existes. Nous, en Occident, ce que je vois, je crois. La finalité, peu importe. Le look, les yeux. Rachid explique sur place. Maintenant, Esav, quand il va rencontrer Yaakov qui revient de Galout, alors c'est marqué que sa femme de Yaakov, Rachel, était très très belle. Alors Yaakov a mis Yosef devant Rachel pour que Esav ne regarde pas avec ses yeux. C'est marqué que Esav, il a levé les yeux, il a vu les femmes. Hein? Qu'est-ce qu'on lève les yeux pour regarder quoi? Les femmes! C'est ce qu'il fait Esav, il veut regarder les femmes. Alors Yaakov a placé Yosef devant Rachel. Parce que Yosef a la faculté justement d'arrêter l'impact négatif des yeux de Esav. D'ailleurs, Esav vient de 400 hommes. 400 hommes, gématria, valeur numérique, Aïn, Ra, mauvais œil. D'accord? Le mauvais œil, ça provient de la jalousie. Ça provient du côté extérieur. La jalousie provient que je ne regarde pas maintenant mon intériorité à moi, mon job que je fais dans ma vie, c'est moi avec Dieu. Et peu importe, l'autre, il est mieux ou il est pas, ou il est moins bien, ça n'a rien à faire avec moi. Moi, j'ai mon job avec Dieu. J'ai mon truc, j'ai ma mission sur terre. Que l'autre soit plus haut ou plus bas, ça n'influe en rien. Ça n'influe en rien. Ça, c'est être intérieur. Quelqu'un qui est extérieur, ça regarde, il oublie son intérieur à lui et il se valorise par rapport à l'autre. C'est tout à fait extérieur, c'est relativement, comparativement à. Ça, c'est être extérieur. Nous devons être intérieur. Quelqu'un qui est intérieur, et Yosef était tout dans l'intériorité, c'est ça toute sa grandeur. Qu'il arrive à être d'un côté le roi d'Égypte, mais il reste Yosef, malgré tout, quand il le voit, il envoie à son père, il envoie dire, je suis le même Yosef qui est resté, je suis le même bon juif dans la Torah, je n'ai pas été gâté par l'extériorité. Ça, c'est la puissance de Yosef. Alors nous rappelons, c'est bien de rappeler la puissance de Yosef lorsqu'on sent qu'il y a du Ayin Hara sur nous. Le meilleur truc, c'est pas trop se montrer, comme ça dit le Rav Dessler. C'est un truc qui marche. Le Aïnara, c'est un truc qui fonctionne. Quand les gens, ils te regardent, et quelque part, ils sont jaloux, te regardent avec un côté extérieur, un côté jaloux, un côté négatif, ça a un impact là-haut.
On est mis le mois de Hadar, ça marche pas.
Alors, comme le mois de Hadar, comme donc tu dis maintenant, je répète pour que les gens entendent, tu dis qu'il y a des gens qui disent que lorsqu'on est le mois de Hadar, ils sont pas trop vulnérables au Aïnara. Pour la même raison. Ben Porat Aleyin, Yosef a été béni comme les poissons. Le poisson, c'est marqué que le Aïn Hara n'a pas d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'eau et on ne peut pas le voir. Or, le signe zodiacal du mois de Hadar, c'est le poisson. Donc c'est une certaine relation. Maintenant aussi le Hamsa, d'accord, la main, c'est... L'origine, c'est 5, mais pourquoi 5? Je crois que 5, c'est par rapport à la Torah, tout simplement. D'accord? Les 5 livres de la Torah.
Il a donné un chidouche, regardez là. Il a dit quand Esav, il a demandé qui sont ses enfants, et après, il lui a dit Ayeladim. Il a rajouté un Hey.
Hey. Bon, ici, un chidouche qu'on nous dit qui est très beau, que lorsque Esav vient et voit les enfants de Yaakov, c'est quoi tout ce monde-là que je vois? Alors répond Yaakov, il dit, Hay Eladim, Asher Khanan Elohim et Abdecha, les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. En parlant lui-même, il dit ton serviteur, mais il dit les enfants, il dit, Hay Eladim, c'est 5. D'accord? 5. 5. Pourquoi le 5 qui protège le Aïnara? À mon humble avis, je pense que le 5 c'est la Torah. D'accord? Les 5 livres de la Torah.
Et la main c'est quoi?
Même chose, 5. La main c'est 5.
Ça veut dire quoi, c'est pas
bon. Non. Quoi que je sache.
Pourquoi? Parce que la Torah ça donne des mérites et donc ça nous protège contre les.
Voilà, la Torah, si quelqu'un il est entier avec Dieu, alors il est moins. Encore une fois, quand je suis extérieur, j'ai peur des autres, je suis en relation avec les autres, je deviens plus vulnérable. Quand je suis droit avec Dieu, quand je suis dans mon intériorité, dans ma relation personnelle avec Dieu, indépendamment des autres, alors d'abord je dérange moins les autres. Tu provoques moins la jalousie. Quand tu es en état de concurrence, alors tu provoques la concurrence. Quand tu n'es pas en état de concurrence, d'abord les gens t'aiment beaucoup, parce que tu n'es pas en concurrence avec eux, tu es humble, tu n'en veux pas aux autres, au contraire, tu aimes les gens et tu es aimé par les gens. Quand quelqu'un, il développe sa richesse intérieure, il est moins dans la relation extérieure avec les autres. Quand je dis extérieur, ça veut dire fausse. Ça veut dire en relativité. Or, je ne vis pas en relativité des autres. Je vis en relation avec Dieu.
Quelque chose qui est injuste dedans, c'est que les pensées, c'est pas...
Donc, tu poses la question. Je répète ta question pour que les gens entendent. Ta question, elle est... Tu veux bien comprendre, tu viens te donner un coup à quelqu'un, donc tu lui as fait du mal, donc c'est normal qu'il y a un dégât qui a été fait. Mais si maintenant c'est en pensée ou c'est en regard, pourquoi? Je te réponds non. Ta parole, ta pensée et ton regard ont un impact.
Je ne suis pas d'accord. Par exemple, lui...
Toi maintenant, tu as eu une pensée de jalousie, d'envie sur quelqu'un. C'est une chose qui est négative, tu n'as pas le droit de le faire. C'est interdit d'après la Torah. Après, il a dit qu'on devrait donner, on arrive au Lama, on devrait donner un compte rendu sur le Aïra qu'on a fait.
C'est quoi les conséquences? Ils ont ouvert son dossier,
oui.
Et la voiture a été brûlée.
Oui.
Pourquoi ils m'ont utilisé à
moi? J'ai pas compris. Si maintenant toi tu viens, tu donnes une gifle à quelqu'un.
Ben là, je comprends.
Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il se peut que lui a subi une gifle sans que Dieu ait voulu?
Non, mais moi j'ai aussi participé.
Mais là, t'as participé aussi.
Mais c'est pas vraiment la même chose.
C'est ça. Toi, tu dis maintenant, quand je donne une gifle, c'est moi qui fais. Quand j'ai une pensée, c'est pas moi qui fais. C'est moins. C'est faux. La pensée, le regard et la voix ont plus d'impact que la gifle. Beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est quoi une main? C'est rien. Un morceau de steak est toujours un morceau de steak.
On peut pas contrôler. Je veux bien qu'on se contrôle. Qu'on fasse pas ressortir.
Mais... Ok. Faire attention. Il faut faire attention. Pas trop regarder. Ne regarde pas.
Et on peut faire un tenaille que tout ce qu'on...
Fais un tenaille, ça peut aider, mais... Tu comprends que c'est un truc.
Tous les caméras des kabbalistes qui donnent contre les yeux, tous les trucs qui se dans le marché, c'est protecteur,
c'est mieux que rien.
Moi, on m'a dit qu'on mettait un fil rouge autour de la tombe de Rachel et qu'on faisait prier dessus, on le coupait puis on le mettait sur le réservoir.
Ce goût-là, regarde. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des sgoulottes. Sgoulottes, ce sont des combines qui peuvent aider. Faut pas devenir fou. C'est bien, mais c'est pas plus que bien. Je ne vais même pas dire le mot bien, d'accord? Ça peut aider, éventuellement. Faut pas devenir fou parce que tu as des livres comme ça de ce boulot, de trucs à faire, de combines. C'est passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est ma relation avec Dieu. C'est ça qu'il faut construire. Avec la prière, avec les mitzvot, avec l'amour de Dieu. Ça, tu investis dans les choses qui sont vraiment très très solides. C'est pas logique que quand il a pris un petit fil rouge, à cause de cela, il est sauvé. Tu comprends? C'est facile. Mets le petit fil rouge, voilà, tu vas au Olam Haba. Comme avant Kippour, les gens, ils prennent le poulet, ils font trois petits tours, voilà, ou bien ils font tachir à Rosh Hashanah, ils sont secoués les péchés dans l'eau. Gamma, nous, on est propre. Eh, t'as fait tchouva. Il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. Alors, je dis pas de pas faire l'accessoire, c'est bien, c'est folklorique, c'est bien, sympathique, ça aide. Ok, très bien. Ça a aussi peut-être aussi un petit impact. Mais c'est accessoire par rapport aux choses essentielles. Oui.
Si on voit qu'on cramait dans nos cellules pour toujours,
d'accord. Vous allez payer l'addition. Alors, tu parles maintenant d'un autre sujet, je répète ta question. Tu dis, quelqu'un a vu des images interdites. On parle d'images vraiment interdites. D'accord? Nous avons, Baruch Hashem, une bonne mémoire. Et même 30-40 ans plus tard, hop, ces images reviennent. Surtout au moment où on n'est plus casse-pieds. Tu es en train d'étudier la Torah, tu es en plein chemin Israël, boum, d'accord? Tu vas dans la rue, ça va, tu n'y penses pas, mais au moment où on est plus sain, l'image revient. Alors, de nouveau, le regard, ce n'est pas simplement des photons qui touchent ma rétine. Le regard, ça a une portée spirituelle énorme. Lorsqu'on regarde une image interdite, on crée une réalité négative qui a l'image de cette image. C'est pas que dans le ciel, tu as une bonne femme en virtuel, mais tu as une réalité négative qui existe maintenant, maléfique, d'accord, qui est créée de ce péché-là. Maintenant, ce péché, comment tu peux le réparer? En faisant le tchouva. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais tchouva, tu dis à Dieu, Dieu, je regarde ce que j'ai fait. Maintenant, pour que ta tchouva soit vraiment totale, il faut que tu aies une épreuve de même type que tu arrives à réparer. L'épreuve, elle est que cette image revient dans ta tête et tu l'éloignes. Donc vous me direz, mais j'ai fait ça déjà 40 000 fois pour la même image, elle est tenace. Alors ça, simplement, une fois qu'on a investi, on a fait un acte négatif, on a créé maintenant cette réalité spirituelle négative, elle attire sur nous un ruach hatouma, un esprit d'impureté, qui fait qu'on pense à ces choses-là. Le seul moyen de s'en sortir, c'est attirer sur nous un état, un esprit de pureté. Comment ? Rambam Maïmonide dit, ces pensées-là, non, les pensées d'Arayot, des pensées sexuelles, n'ont place que dans l'esprit qui est vide de Torah. Quand c'est vide, alors qui rentre? Les cochonneries rentrent. Quand c'est plein, quand c'est plein de Dieu, t'as pas le temps pour ça. Alors ça prend du temps, un esprit qui était vide, de le remplir. Il est certain qu'avec le temps, où on se remplit de Torah, on se remplit de la Avodat Hashem, au bout d'un moment, même que tu as vu ces images, il n'y a même pas trop longtemps, tu n'y penses plus du tout. Tu n'y penses plus du tout.
Des fois, sans y penser, elle vient toute seule.
Alors, si elle vient toute seule et tu l'élimines tout de suite, il n'y a aucun problème là-dedans.
Mais pourquoi elle vient toute seule si je ne veux pas y penser, des fois, il y a des trucs, c'est...
Parce que ces images-là ont été créées, elles ont encore une réalité, elles veulent encore maintenant, elles veulent en quelque sorte que tu les répares. Tu répares la réalité maléfique que tu as faite, tu la répares comment ? Elle revient et quand tu ne penses pas, quelque part, tu l'as affaibli. Tu as tenu le mal. Tu as réparé le mal en bien. Donc il faut, ça revient. À chaque fois que tu éloignes, tu répares la mauvaise pensée que tu as eue, tu répares le mauvais regard que tu as eu, tu es en train de le réparer. Au bout d'un moment, quand tu seras plein de pureté, tu bâtiras sur toi un esprit de pureté, tu ne penses plus à ces choses, ça ne t'attire plus du tout, tout simplement. Parce qu'il y a 40 000 choses qu'on a vues dans notre vie. Pourquoi on n'y pense pas à chaque petit détail de notre enfance? Parce qu'on a la tête autre part. Au bout d'un moment, tu as la tête autre part. Mais quelqu'un qui a la tête là-dedans, ben évidemment, ça reviendra. Donc, ce qu'il faut, c'est éloigner l'esprit d'impureté qui a été attiré par toute cette collection de créations malfaisantes spirituelles qui existent et attirer sur soi un esprit de pureté. Comment? Torah, mitzvot, prière et tchouva. Quand on fait tchouva, On regrette, alors on enlève cet esprit d'impureté. Ça reviendra, bien sûr, parce que le Tzaraï est là pour nous faire rechuter. Il y a toujours le combat. Mais tu es du bon camp. Quand tu as réussi à enlever. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand tu vis dans l'état d'impureté, tu as l'esprit d'impureté qui est sur toi, tu n'es pas attiré par la pureté. La prière, ça te casse les pieds. La Torah ouvrir la Gemara, c'est impossible. Tout la Gemara, d'après 5 minutes, tu es en train de dormir, tu penses à autre chose, tu n'arrives pas à te mettre dedans. Tout ce qui est dans la Kdusha te répulse. Et tout ce qui est au contraire dans l'impureté de la Touma t'attire énormément. Ça prouve que tu es entouré d'un esprit d'impureté. Cet esprit d'impureté, il peut partir facilement, en faisant tchouva. Tchouva, ça veut dire vraiment, je reconnais Dieu, je fais des péchés, je regrette, je pense au moins d'arrêter. Une décision totale, solide, ça attire sur soi un esprit de pureté tellement grand, on t'amène une force sur toi qui te permet de dégager de façon surnaturelle. Surnaturel. Quelqu'un m'a envoyé sur Internet dernièrement une question. Comment est-ce que quelqu'un peut se retenir des envies sexuelles? Je vois des gens, des tzadikim, qui tiennent, mais c'est complètement impossible. J'ai répondu, c'est vrai, c'est impossible naturellement. On est surnaturel. Dieu aide la personne qui fait tchouva de façon surnaturelle. Et, Baruch HaShem, les témoins n'en manquent pas. C'est du surnaturel. J'ai eu des investis qui m'ont dit, je ne sais pas comment je fais. Après quelques mois, des gens qui étaient très, très axés sur la chose, d'accord, il tient un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, trois ans. C'est du surnaturel. Comment il fait? Ben Dieu, figure-toi, est surnaturel. Il y a la nature et il y a Dieu. Et Dieu t'influe un flux surnaturel dans toi qui te rend un ange. Baruch HaShem. Et ça marche, messieurs. Ça marche. Évidemment, si tu alimentes, comme c'est le cas en France, toute ta journée avec des regards interdits, tu retombes très vite dans ta condition naturelle animale.
Est-ce qu'il y a une allusion à la force de l'œil dans le mot Aïn? Dit Aïn, c'est
aussi
un triote pour dire à la force de l'œil.
Ouais, les yeux ont un impact très très grand. Ils sont très proches du cerveau. Les images que nous voyons, elles ont un impact dans l'âme très très grand. Aïn, les valeurs numériques du mot Aïn, si je prends Aïn, c'est 70. Yud, ça fait 80. Nun, ça fait 50. Ça fait en tout 130. 130, c'est 5 fois le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est 26. 5 fois 26. Pour un œil. Pour le nouveau 5 fois 26, ça fait en tout 260 pour les deux yeux. Ça fait 10 fois le nom de Dieu. Qu'on touche les... Il y a 10 sphères, d'accord? Tu touches tout le monument de la sainteté et touché par les yeux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes proches de l'époque messianique, le Tzar Hara, il attaque spécialement là, parce que c'est le point direct. Et ceux qui, dans cette époque-là, tiennent bien leurs yeux, ce sont des gens chéris de Dieu. C'est marqué, la Gemara dit, que celui qui retient ses pensées, on appelle ça le cœur, d'accord, et ses yeux, Dieu dit, lui, il est à moi.
Alors, si c'est si important les yeux, pourquoi dans le schéma on dit d'abord le cœur et après les yeux? Je crois que le cœur il est plus important.
Oui.
Dans le cœur, c'est plus important d'abord dans le.
Dans le verset qui dit l'otatoru harelev abrem renechem, vous n'irez pas, vous ne dévirez pas après votre cœur et après vos yeux. Quand on parle de dévier après le cœur, c'est pour se poser des questions hérétiques. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que c'est pas de la foutaise tout ça? C'est quand même plus dangereux que de regarder une femme. Donc c'est pour ça, ce sera la priorité.
Vous avez dit tout à l'heure que pour protéger ça, est-ce qu'on ne peut pas donner des cours à la maison? Est-ce qu'on ne peut pas inviter des invités pour pas avoir...
Je n'ai pas de solution à te donner. Ta question, je répète à haute voix, quelqu'un maintenant, pour éviter l'Aïn Hara, il ne doit pas trop se montrer. Alors est-ce qu'il doit maintenant se cadenasser à la maison? Il n'a vu de plus personne, il ne peut pas faire de cours chez soi à la maison.
C'est pas de péché.
J'ai pas de réponse à te donner. Je peux raconter une histoire authentique. Le rabbin Sanaba Shaoul, qui était le super top rabbin de la génération passée. Lui, le Rav Shach, le Ham Ovadia, c'était les 3-4 plus grands rabbins de la génération. J'étais présent quand il a raconté qu'ils ont acheté un nouveau frigo. Normal, un frigo. Il y a une classe entière qui est venue visiter le Rav. Une classe, 40 enfants, des jeunes gens de 15-16 ans, des quartiers défavorisés. Ils sont tous passés à la maison, ils ont dit bonjour, ils sont ressortis, ils sont passés par la cuisine aussi, ils sont ressortis. Quand ils sont sortis, tout à coup, le frigo, il y a eu un bruit bizarre, tout à coup des ressorts, des tuyaux, tout qui a sauté dans le frigo. Un frigo qui est daté de 3 jours. C'est du anormal complet. Aïn Hara. Le Rav, il a dit Aïn Hara. Le Aïn Hara. Ça existe.
Et malgré tout, vous continuez.
Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas de solution à te donner. Il faut être prudent. D'abord, tout dépend aussi des gens, à quel point ils sont sensibles ou pas. Moi, je suis assez insensible, je dois dire. Hein? Baruch Hashem. Attends, je suis très exposé dans les séminaires, tout ça, les gens. Une fois, je raconte une histoire authentique. J'étais à Lyon. Et au symposium, il y a quelqu'un qui dit une tartine pareille. Rav Shaya, jamais vu si jeune, et tellement de connaissances, et tout ça. Puis il y avait un autre rabbin du coin qui était là-bas, puis il voit que ça bouillonnait un peu en dedans, d'accord? Bon. Je ressors du séminaire, je vais chez un ami qui habite là-bas, je me lève le lendemain matin avec des maux de ventre, une gastro que de ma vie je n'ai pas eue. Au séminaire, là, je mange très, je ne suis pas très lourd, hein, je suis déjà très maigre, au séminaire je mange très très peu parce qu'on est en train de parler sans cesse, il y a beaucoup de pression. Déjà que je sors du séminaire, je suis affamé. Je dois reprendre 2 kilos que j'ai perdu pendant le séminaire. Pendant une semaine, je n'ai pas mangé, enfin très très peu. Survécu. J'ai maigri encore je sais pas combien. Le vendredi matin, je me lève. Baruch Hashem, de ma gastro, bronchite. L'après-midi, bronchite. Et je m'enfonce. Samedi, dimanche soir, je sens que je m'enfonce dans mon lit. Je suis en train de dépérir. Je n'en peux plus. Tu sens que tu rentres dans la tombe. J'en peux plus. À l'époque, mon Ravrota, il faisait un truc contre le Aïnara. Qui est fait, il y a une dame ici qui fait ça ici à Jérusalem. C'est un truc qu'on a une on prend du plomb et on fait tourner autour de la tête, on verse dans un verre et ça forme, le plomb il forme des boules comme des yeux. Et on fait cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boules. Alors tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, ça fait partie de l'Aïnara. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois grand maximum. Au bout d'un moment, tu verras que le plomb que tu mets, c'est un truc qui marche. C'est un vrai truc, c'est pas de la Kabbalah, c'est un truc, eux ils ont amené ça du Yémen, cette dame elle vient de Pologne. C'est un vrai truc que le peuple d'Israël connaît, véhicule avec lui, qui marche. Bon, moi ce genre de truc, je touche pas trop. Là je sens que ça marche pas. 11h du soir, j'appelle mon Rabota, je lui dis écoute, fais-moi plaisir, fais-le moi, même à distance, comme ça, parce que je sens que j'en peux plus, quoi. Dix minutes après, je me sens déjà beaucoup mieux. Psychologiquement, je ne sais pas, dix minutes après, je me sens déjà beaucoup mieux. Bon, le lendemain, il me dit, écoute, j'ai fait 28 fois. Il y avait encore des boules. J'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai arrêté après 28 fois. 28 fois. Donc, j'avais une grosse masse qui me tombe dessus. Au Rachem, c'est parti. Au Rachem, jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas dire, quand on dit ça dans le ciel, on dit, ah, tu dis, ah, sur Internet. Que Dieu nous protège. Voilà. Enfin, voilà. Amen, Kineret.